I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello à tous ou re-hello si vous êtes sur Patreon, sur le flux privé. Et si vous ne l'êtes pas, eh ben, nous sommes quelques jours après la sortie de l'épisode classique. Donc maintenant, nous sommes sur le 348 bis. Je suis Patrick Béja. Et je vais vous parler un petit peu des sujets qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer dans l'épisode de mardi. J'avais plusieurs sujets qui m'ont pas mal intéressé, qui réfléchissent à la manière dont le confinement change le rapport à la tech. Et en particulier, il y a un sujet que j'avais évoqué déjà ici et là, on le sentait poindre depuis quelques semaines, c'est la manière dont les géants de la tech contrôlent l'information et surtout les fake news, les infox, voilà, c'est comme ça qu'on dit, les infox par rapport au coronavirus. Et on l'a constaté, ils ont été particulièrement... ils ont pris des décisions assez strictes sur les informations, les fake news, les informations complotistes, on va dire, en... D'une part, en bloquant l'accès à ces informations de manière sévère, et on voit les résultats d'après les premiers rapports de YouTube, notamment. Évidemment, YouTube est l'un des vecteurs de diffusion de ces informations erronées. Ils disent chez YouTube que le nombre de vidéos vues de sources fiables, de sources qui sont jugées fiables, a augmenté de 75% dans le premier trimestre de cette année dans le monde. Donc vraiment, cette décision stricte a augmenté le nombre de l'accès à l'information fiable de manière significative. Donc quand YouTube et quand ces géants de la tech sont à ce point proactifs, eh bien, la désinformation diminue. On voit aussi que YouTube fait apparaître, et ça, c'est une chose qu'on a vu chez tous les géants de la tech, on l'a vu sur Google, on l'a vu chez Facebook, on l'a vu ailleurs également. Quand on fait des recherches sur des sujets liés à la pandémie, liés au Covid-19, on a des informations qui sont proposées de manière extrêmement visible, dans des encadrés, en haut des résultats de recherche, par exemple, avec des informations vérifiées, des sources fiables, des sources vérifiées. C'est un élément d'interface qui est lancé aux États-Unis. Ils ont fait des tests au Brésil et en Inde l'année dernière. Et ça ne concerne pas que le coronavirus, bien sûr, dans le cadre de ces encadrés sur YouTube pour les résultats de recherche. Mais on a vu ça arriver sur différents réseaux sociaux dans le cadre du coronavirus. Et leur efficacité semble se démontrer. Et tout ça, c'est très bien. Je crois qu'il n'y a personne sur Terre qui va dire « Ah ben non, non, il ne faut pas diriger les gens vers des informations vérifiées dans le cadre de l'information sur le Covid-19 et sur la manière dont on doit agir pour enrayer la pandémie, etc. etc. » D'ailleurs, même aux États-Unis, on a un membre du Parlement qui s'appelle Adam Schiff qui a spécifiquement demandé au président de Google, de YouTube et de Twitter de faire aussi bien que Facebook pour combattre la désinformation sur le Covid-19. Rendez-vous compte à quel point c'était inimaginable il y a quelques mois à peine qu'un membre du Parlement américain dise aux géants de la tech « Vous devriez vous inspirer de ce que fait Facebook ». On n'était pas du tout dans cette ambiance. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qu'il sera difficile de critiquer. aujourd'hui et dans le cadre du Covid-19. Mais ça pose des questions sur l'avenir. Moi, je commence, et je crois que ça fait quelque temps déjà, et je ne suis pas le seul, bien sûr, je commence à me projeter sur les conséquences de cette crise dans la tech, une fois qu'elle sera passée. Et qu'est-ce que ça nous apprend, cette crise ? Et ça, c'est une constatation factuelle qui n'est pas, sur laquelle je ne porte pas de jugement de valeur, à ce stade. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que quand les géants de la tech combattent de manière proactive la désinformation, c'est efficace. Et donc, ce problème de fake news qu'on a depuis des années maintenant, un moyen de le combattre, non pas de le résoudre, parce que c'est jamais résolu comme on va, pardon, comme on va l'entendre dans un instant avec les sujets suivants, mais un moyen de le combattre, c'est de, et là ça devient plus compliqué à faire accepter, c'est de lâcher la bride aux géants de la tech et de leur dire soyez plus proactifs, soyez plus actifs dans votre combat. Le problème intervient, et là donc c'était simplement une constatation factuelle comme je le disais, c'est si on leur lâche la bride, eh ben c'est plus efficace. Si on les laisse nous dire en fait en texte sous-jacent, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est qu'on leur laisse nous dire ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est vrai et ce qui est faux, pour parler en termes un petit peu tranchés. Quand on leur laisse nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux, eh bien, ça fonctionne mieux, parce qu'ils peuvent mieux le faire de manière plus claire, de manière plus tranchée, de manière plus dirigiste. Évidemment, vous voyez tout de suite que là, si on parle d'autre sujet qu'un sujet urgent de crise et de pandémie, eh bien, ça peut faire, on va dire, moins l'unanimité, ça peut faire un petit peu plus peur. Parce qu'on revient sur des sujets où les avis sont plus tranchés. Évidemment, si on va dire « il faut combattre le sexisme », sur le principe, oui, mais comment ? « Il faut combattre l'incitation à la haine raciale », ok, mais qui est-ce qu'on va sélectionner comme incitant à la haine raciale et qui ne fait pas partie de cette catégorie ? Est-ce que YouTube va pouvoir enterrer les résultats de recherche ou faire apparaître des sources certifiées impliquant, en insinuant que la vidéo en question, le sujet en question, ne donne pas lieu à un débat. Alors évidemment, on va avoir des dizaines et des milliers d'exemples où, oui, clairement, il faut avoir une telle attitude aussi tranchée. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont importants, ce n'est pas de ceux-là dont on entend parler dans la presse ensuite, ce n'est pas de ceux-là que naissent les polémiques. C'est des sujets, des effets de bord, enfin des sujets de bord, des sujets où la population est plus tranchée, les avis sont plus nuancés, et on peut dire oui mais. Et donc, je pense qu'on va avoir dans les mois à venir des gens qui vont s'écharper sur l'idée que regardez, pour le Covid, ils ont bien réussi. Ils ont réussi à être plus actifs. Et maintenant, pourquoi est-ce que vous refusez de l'être sur ce sujet qui, moi, me tient à cœur ? Et quand un sujet nous tient à cœur, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de polémique, ou plutôt qu'il ne devrait pas y avoir de polémique. Certes, mais dans la pratique, la polémique est là, et notre avis, on pense qu'il vaut plus que celui de la personne d'en face. Mais est-ce que c'est à YouTube de décider que c'est notre avis qui compte plus ? On revient dans exactement le même problème qu'on avait à l'époque. Et là, je vais devenir un petit peu provocateur. Je dirais, il faut qu'on tire les enseignements de cette histoire de Covid-19 et de la manière dont YouTube a combattu, je prends l'exemple de YouTube parce que c'est le plus parlant, mais de YouTube, de Facebook et des autres, dont ils ont combattu cette désinformation, et accepter que dans les combats sur ces polémiques à venir, dans les combats à venir, eh bien, ils vont peut-être devoir mettre en place les mêmes pratiques, et donc accepter que parfois, peut-être, le ton de ma voix monte, je monte dans les aigus parce que je me pose en même temps la question, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec cette orientation qu'ils vont prendre, mais ils vont se référer à des avis qu'on appelle vérifiés. Et ils vont orienter vers des avis vérifiés, peut-être des check news, des décodeurs, des choses comme ça pour parler de la France.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et peut-être qu'on sera pas d'accord parfois avec ça, mais peut-être qu'il faudra l'accepter parce que dans l'ensemble, au final, le résultat net est positif pour combattre la désinformation. Donc, c'est une supputation, une extrapolation de ce qui se passe aujourd'hui, mais je crois qu'on va être confronté à ces problèmes auxquels on était confronté avant, mais de manière différente, avec l'expérience de ce qui s'est passé en combattant la désinformation au moment de cette crise. Donc, ça risque de changer un petit peu la donne, on va dire. Et puis, bien sûr, ça change également un petit peu la relation entre les États et les GAFAM, même si, en l'occurrence, avec l'application Stop Covid, la bonne volonté des GAFAM est un petit peu, égratignée. Alors, je continue rapidement avec deux petits sujets qui viennent contredire ce que je disais à l'instant. Pas contredire, mais on a vu que les théories conspirationnistes pouvaient être supprimées de certains sites, mais on a un outil formidable qui s'appelle la Wayback Machine, qui est développée par The Internet Archive, dont la mission est d'archiver l'ensemble du contenu du web tout le temps. Et ils essayent d'archiver tout le web, c'est un outil formidable, qui archive tout le web tout le temps. Et là, vous comprenez ce à quoi je vais en venir. Cet article du MIT Technology Review a montré que les théories conspirationnistes, en fait, pouvaient continuer à se diffuser grâce aux pages archivées sur l'Internet Archive, où elles étaient toujours présentes. Et donc là aussi, ça pose un problème. Est-ce qu'on veut les supprimer même des archives, donc les supprimer à jamais, ou les mettre sous quarantaine, ou mettre peut-être, comme je le disais à l'instant, un encadré prévenant et orientant vers des sources plus vérifiées, même sur ces archives? Peut-être que ça serait ça la solution, mais en tout cas, aujourd'hui, vous remarquez comme j'évite de dire au jour d'aujourd'hui, hein, je fais des gros efforts. Donc aujourd'hui, elles sont accessibles sur l'Internet Archive. C'est un problème. Et évidemment, comme toujours, les gens dont on supprime les contenus sur Facebook parce qu'ils sont conspirationnistes ou désinformationnistes, se retrouvent sur un nouveau réseau social, pas tout à fait nouveau, mais qui a gagné en popularité, qui s'appelle MeWe, moi, vous, enfin, moi, nous, plutôt, qui est devenu, comme souvent dans ces modèles, un réseau qui est un refuge de conspirationnistes. À la base, c'était une idée qui était relativement intéressante. C'était un réseau social comparable à Facebook qui était en modèle freemium, donc pour lequel on pouvait payer. Et ils sont devenus populaires chez les gens qui avaient des théories, moins recommandables sur les réseaux plus traditionnels. Et donc, ils se sont retranchés là-bas. Et donc, ce que je veux dire, c'est que comme Gab, comme alternative à Twitter, et ben là, on en a un qui est en train de devenir une alternative à MeWe, à Facebook. Ce que je dirais, c'est que l'idée qu'on va pouvoir entièrement supprimer cette désinformation, la faire disparaître du monde, est évidemment erronée. C'est un petit peu comme, là encore sans jugement de valeur, c'est un petit peu comme le piratage ou le combat contre la drogue. On sait bien que ça ne va pas le faire disparaître complètement, mais l'idée est de rendre la chose la plus difficilement accessible possible pour que la diffusion diminue. Et là, je crois que maintenant, on sait bien que ces idées trouvent refuge quelque part, mais il vaut mieux qu'elles soient dans un coin obscur, je pense, plutôt que plus accessibles et plus diffusées. Bon, en tout cas, là, on voit qu'elles existent encore ici et là. Et enfin, le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est l'après-confinement dans le domaine du travail. Et évidemment, dans le domaine du travail à distance. Il y a d'abord un article intéressant dans le Washington Post qui montre que certains employeurs, alors c'est particulièrement aux États-Unis, hein, mais il n'empêche, certains employeurs ont commencé à utiliser des outils extrêmement invasifs pour, entre guillemets, surveiller leurs employés qui travaillent à la maison. Ils ont des règles selon lesquelles la webcam doit rester allumée, il y a des pointages quotidiens, et ça peut être... Bon, ça, on peut comprendre pourquoi certains le voudraient, évidemment, c'est, à mon avis, hein, c'est particulièrement peu recommandable, déjà, ces choses-là, mais il y a des choses un petit peu plus pernicieuses, comme des cocktails, mais des pots qui sont pas forcément obligatoires, mais qui en fait deviennent obligatoires. Genre, on se fait notre apéro sur Zoom, et si Jean-Pierre il vient pas, et si Kevin il est pas là, et si Charlotte elle a autre chose à faire, ah ben c'est quand même, ça le fait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est une sorte d'effet pervers du confinement, qui s'inscrit un petit peu dans cette évolution qu'on a un petit peu constatée, où les premières semaines, c'était un petit peu « Waouh, ça va super bien marcher, c'est sympa, c'est pas trop chiant. » Et aujourd'hui, on constate que, je parlais de la Zoom fatigue la semaine dernière, on constate que les choses, en fait, sont plus compliquées qu'on ne le pensait à l'origine. Et cette manière de travailler a également... et créer également son lot de problèmes, ce qui n'est pas si surprenant, mais on le constate. Et je pense qu'il va falloir y réfléchir sérieusement pour que ça ne devienne pas un autre facteur de stress, parce qu'il y a deux autres éléments à évoquer, ou plusieurs autres éléments à évoquer. Il y a fort à parier que le télétravail se généralise un petit peu plus qu'il ne l'était jusqu'à maintenant. On sait que c'était une tendance qui était un petit peu en marge, même si elle commençait à grignoter ici et là des pratiques dans le monde du travail en France, un petit peu partout dans le monde, mais en France également. Là, ça va certainement s'accélérer. Et on peut imaginer, je vais prendre un chiffre au hasard, hein, mais imaginons que 20% du temps de travail, c'est peut-être beaucoup, 20%, disons 10 ou 20%, mais se retrouve désormais en télétravail. Ça ne veut pas dire que tout le monde va travailler de chez soi en permanence, mais on peut trouver un équilibre intéressant. Certaines personnes feraient un, deux ou trois jours de travail de chez eux. Évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler chez eux. Hein. Les boulangers, les infirmiers, ils ne vont pas travailler de chez eux, c'est évident. Mais beaucoup d'entre nous ou d'entre vous, parce que moi c'est travailler de chez moi depuis longtemps, mais beaucoup d'entre nous le pourront, et ça peut avoir des conséquences intéressantes. On pense au transport, à la pollution, au temps gagné. Si on a, on va dire en moyenne, je crois c'est 30 minutes, 40 minutes de transport par aller-retour, ça fait beaucoup de temps gagné sur 2-3 jours où on pourra faire d'autres choses. Et donc, ça risque de s'installer, pas exclusivement, mais dans la durée. Et donc, il va falloir penser à toutes ces choses-là. Et il y a beaucoup de réflexions également. Il y a un bel article de Om Malik sur le fait que c'est certaines pratiques qui étaient dans la tech, autorisées par la tech, rendues possibles plutôt par la tech, qui étaient très lentes à s'installer, se sont installés de manière plus rapide. Et donc, on s'inscrit complètement dans cette dynamique-là. Et enfin, il y a un autre sujet que j'ai trouvé intéressant, qui est la manière dont les restaurants ont commencé à utiliser des services de livraison, de plus en plus, des services de livraison généralement tech. Hein. Il y en a beaucoup, on pense à Uber Eats, Deliveroo, etc. Et du coup, ils ont passé une partie de leur business sur ces... Enfin, en ce moment, c'est une énorme partie de leur business ou tout leur business sur ces services. Je ne parle pas forcément que de la France, hein, mais... Et cette, on va dire, dépendance à ces services va rester après le déconfinement. Évidemment, il va être d'une part progressif quand il arrivera, mais surtout, on imagine mal que des restaurants vont se dire « bah du coup, je vais plus essayer de vendre mes produits de cette manière ». On pense aux restaurants, mais il y a peut-être d'autres acteurs aussi qui se sont tournés vers ce type de service, mais les restaurants en particulier, la livraison, et c'est dans ce cadre de l'accélération de l'adoption de la tech dans certains domaines. On est en ce moment en train de commander plein de trucs, mais ces habitudes ne vont pas disparaître du jour au lendemain quand le déconfinement sera arrivé. Alors encore une fois, le déconfinement va être progressif, mais surtout, même si on aura peut-être un effet rebond ensuite, ces habitudes vont rester. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que sans doute, ces acteurs de la livraison s'en retrouvent renforcés. Et c'est un autre aspect qui aurait pris potentiellement beaucoup plus longtemps. Et on a plein d'exemples de ce type d'attitudes qui ont été amplifiées pendant le confinement et qui ne vont pas disparaître une fois que le confinement va, lui, se résorber dans quelques mois, ou dans un an, ou dans plus, quand on aura le vaccin. Et ce n'est pas pour demain. Bon, bah merci d'avoir écouté cet épisode bis du Rendez-vous Tech. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura plu. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, évidemment, sur Patreon, qui l'ont déjà entendu. Enfin, si vous êtes en train de l'écouter maintenant, merci à vous de soutenir l'émission. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech classique. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Ah oui, note Patrick sur Twitter, Instagram, tout ça, Facebook. Ciao.